France Inter.
Bonjour. Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, au théâtre à Athènes, on pouvait tout faire, même juger un chien dans un procès en bonne et due forme. Il suffit que ce chien soit accusé dans les règles par un collègue chien, par exemple pour avoir brusquement sauté dans la cuisine et volé un gros fromage de Sicile. Et surtout, pour ne pas avoir fait profiter son collègue de son butin. Il y a là une absence totale d'esprit civique. Un acte d'accusation peut être écrit et lu solennellement. Des discours contradictoires peuvent être prononcés, même si ce chien ne sait pas parler, mais juste se taire ou aboyer. On parlera pour lui. Des témoins directs peuvent être cités et un jugement peut être rendu par un vote sans appel, non contesté. Personne ne trouvera quoi que ce soit à redire. La procédure et régulière, à peu de choses près. La société peut reprendre alors sa vie normale. L'affaire a été jugée.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Aristophane, le grand poète comique athénien, s'est visiblement fait un grand plaisir en composant et en mettant en scène ce procès canin dans une de ses comédies, Les Guêpes. Les guêpes, dans sa pièce, ce sont les jurés athéniens des tribunaux. Ils portaient un petit stylet avec lequel ils gravaient leur vote sur un bout de poterie. Ils glissaient ce bout de poterie dans une urne pour condamner ou acquitter. Selon Aristophane, ils avaient plutôt tendance à profiter de leur pouvoir et à condamner. Ces stylets qui peuvent envoyer quelqu'un à la mort, à l'exil, à l'amende, sont pour Aristophane comme les dards des guêpes, qui, dès qu'on les énerve un peu, se mettent en bande pour attaquer de pauvres passants et les piquer. Le chien accusé va-t-il s'en sortir? C'est tout le suspense. Aristophane a écrit et monté cette comédie parce qu'il était très énervé par l'état de la justice à son époque. Ce n'est pas la seule raison de sa décision d'écrire Les Guêpes, heureusement. Sinon, ce serait un peu lourd. En vrai comique, il s'amuse de tout, même de lui-même. Mais c'est vrai que la justice en prend un sacré coup dans sa pièce. Pas la justice en soi, mais les habitudes du moment. Une justice qui donnait une place immense au peuple, au jury populaire. Une justice qui faisait qu'on passait beaucoup de temps à faire des procès, à plaider, à voter. Et que certains citoyens étaient, selon Aristophane, comme obsédés par la justice, des addicts. Aristophane contre le peuple? Pas vraiment. Il est tellement plus fin, plus drôle. Nous sommes en 422 avant Jésus-Christ. Imaginons Athènes, une ville où la justice était, comme chez nous, rendue au nom du peuple, mais où, surtout, elle était rendue directement par le peuple lui-même, pas par des jurys populaires restreints, comme chez nous aujourd'hui, mais par des jurys énormes, toute une assemblée, 200, 500, 1000 jurés, ou plus, selon les procès. En fait, 201, 501, 1001, le nombre devait être impair. La justice y était l'affaire de tous, enfin, pas de tout le monde, mais de tous les hommes, au sens masculin du terme, reconnus citoyens légitimes de la ville. L'Athènes démocratique des 5e et 4e siècles avant notre ère, a vécu avec une telle justice populaire. S'il y a démocratie, c'est que le peuple, la masse, prend des décisions souveraines dans deux domaines qui sont strictement séparés aujourd'hui. Les décisions politiques, qui étaient prises par décret à l'Assemblée, et les décisions de justice dans les tribunaux. C'est ce que souligne Aristote, le philosophe, dans son étude de lui ou d'un élève, la Constitution d'Athènes.
Le peuple s'est lui-même fait maître souverain de tout et administre toute chose à travers des décrets et les décisions des tribunaux où le peuple a le pouvoir.
Les Athéniens ont eu raison, selon Aristote, d'étendre la capacité de décision à tous les citoyens.
car le petit nombre est plus accessible à la corruption que le grand nombre, que ce soit par l'argent ou le favoritisme.
Pour siéger dans un tribunal, il fallait, si on était citoyen et si on avait au moins 30 ans, se porter volontaire pour un tirage au sort annuel en début d'année. Ce tirage au sort sélectionnait 6000 juges qui ensuite pouvaient siéger dans les différents tribunaux. Pour attirer les citoyens les moins aisés, Périclès a institué un paiement pour les citoyens juges, une obole. Son successeur à la tête du Parti populaire, Cléon, que nous allons pas mal fréquenter pendant cet épisode, a augmenté ce salaire, qui est passé à 3 oboles par jour de procès. Ce n'était pas fantastique. C'était la moitié de ce que gagnait un ouvrier travaillant à la même époque sur le chantier du temple Erechtheion, sur l'Acropole. Mais c'était un vrai revenu. Et beaucoup de citoyens pauvres comptaient sur cet apport. Certains diraient des assistés aujourd'hui. Les citoyens plus aisés, qui n'avaient pas besoin de ces oboles, avaient tendance à négliger les jurys. Le peuple, le démos, avait donc un rôle prééminent dans la justice. Et les leaders du peuple pouvaient avoir intérêt à ce que les procès soient très nombreux. Cela était d'autant plus facile que les actions en justice étaient lancées non pas par un ministère public, qui n'existait pas, mais par qui voulait, par tout un chacun. Ce droit de poursuivre en justice aurait, dit-on, été créé par le premier législateur d'Athènes, Solon. Son idée était d'introduire une grande solidarité entre tous les citoyens. C'est ce que soutient Plutarque dans sa Vie de Solon, que je cite ici dans la si savoureuse traduction écrite par Ammio à la Renaissance.
Mais estimant qu'il était besoin de pourvoir encore à la faiblesse du menu populaire, il permit à qui voudrait de prendre et épouser la querelle de celui que l'on aurait outragé. Car s'il y avait quelqu'un qui eût été blessé, battu, forcé ou autrement endommagé, il était loisible à quiconque voulait d'appeler l'outrageant en justice et le poursuivre. Ce qui fut sagement ordonné par lui pour accoutumer les citoyens à se ressentir et à souffrir du mal les uns des autres, comme d'un membre de leur corps qui aurait été offensé. Et à cette ordonnance se rapporte une réponse que l'on dit qu'il fit une fois. Étant interrogé, quelle cité lui semblait la mieux policée, il répondit
« Celle où ceux qui ne sont pas outragés poursuivent aussi âprement la réparation de l'injure d'autrui, comme ceux-mêmes qui l'ont reçue. »
N'importe qui pouvait intenter un procès. On dit que les démagogues multipliaient les procès pour nuire à leurs adversaires politiques et pour que le peuple touche ses 3 oboles. À l'époque où Aristophane écrit et monte sa pièce « Les guêpes », le leader populaire le plus puissant était ce Cléon. Alors qu'Athènes était en pleine guerre contre Sparte, Cléon était du parti de la guerre et de la répression féroce des cités rebelles. Ainsi, nous rapporte Thucydide, l'historien, il a fait voter par l'assemblée athénienne une loi contre les habitants de la ville de Mytilène, sur l'île de Lesbos. Cette ville s'était rebellée contre Athènes. Cléon fait approuver l'envoi par Athènes d'un contingent chargé d'exterminer toute la population masculine de l'île et de prendre les femmes et les enfants en esclavage. Arrivés à Lesbos, les Athéniens ont des scrupules et négocient avec les habitants de Mytilène. Dans un discours scandalisé, Cléon aurait argumenté violemment et avec toutes les finesses de la rhétorique contre cette mollesse, contre cette lâche trahison. Ce Cléon avait de nombreux soutiens dans le peuple.
Il était à tous égards le plus violent des citoyens et de beaucoup le plus écouté du peuple à ce moment.
Aristophane va construire sa pièce « Les guêpes » autour de ce Cléon, qu'il ne ménage pas. Attaquer un si grand homme, aussi puissant et aussi monstrueux, est pour Aristophane un exploit magnifique, aussi grandiose que les travaux d'Héraclès. Aristophane en est fier. Il s'en est déjà pris à Cléon dans une comédie antérieure. Aristophane regrette que le public, toujours prêt à voter pour Cléon, ne l'ait pas suivi.
Ghislaine G. Robert, maître de conférence.
Le rire est aussi en lui-même une critique. Et là, on retrouve quelque chose qui va être spécifique au théâtre en général et à la comédie en particulier. L'essence même de la comédie, c'est de créer un écart. C'est-à-dire que Aristophane va, par sa comédie, mettre en jeu tout ce qui se passe dans la cité athénienne du 5e siècle. Tous les présupposés, tous les principes, tout ce qui fait la réalité de l'Athènes du 5e siècle. Et il va, à ce moment-là, opérer un décalage par rapport à la réalité. Donc ce décalage fait partie de l'essence même du comique.
Par la voix du cœur des guêpes, Aristophane renouvelle son attaque. Il envoie à Cléon une bordée d'injures impressionnantes, très travaillées, pour montrer qu'il faut être un très bon poète comme lui si on veut arriver à dire avec exactitude toute l'horrible infection qu'est ce Cléon. Ça demande du métier, tellement il est affreux.
Quand il a commencé à monter ses pièces, ce n'est pas à des hommes ordinaires que notre poète s'est attaqué, parole d'honneur. Non, il a affronté les pires adversaires avec une ardeur héracléenne. Dès son coup d'essai, il a hardiment engagé le combat contre le croque-mitaine en personne. Ses yeux de chienne vérolée dardant de terribles éclairs, 100 têtes d'abominables courtisans tirant la langue autour de sa tête, il avait une voix de torrent, porteur de mort, une odeur de phoque, des couilles malpropres de l'amiale aux graisses et un derrière de chameau. Notre poète ne s'est pas laissé corrompre, pris de peur à la vue d'un tel monstre, parole d'honneur. Au contraire, maintenant encore, il continue à batailler pour vous.
Cléon est habillé pour l'hiver. Les guêpes ont été composées pour un festival de théâtre en février. Et dire que Cléon était peut-être, ou sans doute, dans le public.
Tes bottines qui bloquent la machine, qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Thank you. qu'un grain de poussière, un grain de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Aristophane et de sa critique féroce de la justice de son temps.
Le pauvre Cléon va vraiment être servi. La pièce est construite autour de deux personnages caricaturaux qui n'existent en fait qu'en rapport avec lui, rapport positif ou très négatif. Il y a un vieux, irascible, démocrate, partisan de la guerre. Il n'a qu'une passion dans la vie, aller juger. Il n'aime que ça. Il se débrouille pour être pris dans les jurys. Il adore les procès, entendre les finesses de l'accusation et de la défense. Il adore être flatté par l'accusateur ou par l'accusé. Et il adore condamner. Il adore donc Cléon, qui en multipliant les procès pour éliminer ses adversaires, lui donne tant de fois l'occasion d'assouvir sa passion et de gagner un peu d'argent. Les 3 oboles versés par Athènes à chaque membre d'un jury. Ce vieux s'appelle Philocléon, c'est-à-dire qui aime Cléon. Le fils de ce vieux, c'est tout le contraire. Il est moderne, cultivé, bien habillé, il parle bien. Et il est pour la paix avec Sparte. Politiquement, il est de droite. C'est un ami des nantis. Il déteste Cléon. Son nom le dit clairement. Et ce nom n'est pas très chic. Déluclléon. Ça veut dire qui a Cléon en horreur. En horreur, c'est trop peu dire. Bdélu dit le malaise, la nausée grave que provoque l'odeur d'un P. En hommage au roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, et à la phrase prononcée par Zazie qui ouvre ce roman.
D'où qui pue donc tant ?
On pourrait appeler ce fils d'où qui pue Cléon. Le fils en a assez que son père passe son temps dans les tribunaux à condamner des accusés à tour de bras en suivant les instructions de ce Cléon qu'il a comme envoûté. Le fils a entouré leur maison d'un filet pour retenir son père. Avant, le fils a tout essayé. Laver son père, le purger, le soumettre à des rites violents d'initiation où on danse frénétiquement au son des tambours, l'emmener sur l'île d'Égine, faire un pèlerinage jusqu'au temple d'Asclépios, le médecin divin, pour le guérir. Mais ça n'a servi à rien. Le père est toujours addict aux tribunaux. Le fils a alors décidé d'enfermer son père. Celui-ci résiste. Il est entré dans le fourneau et cherche à sortir par le trou de la cheminée. On voit sa tête apparaître au bout du tuyau. Son fils le surprend.
Et toi, qui es-tu ?
Moi, je suis la fumée qui s'en va.
La fumée est menacée par son fils d'un coup de bûche. On bouche le trou de la baignoire par précaution. Furieux, le vieux Philocléon s'attaque à la porte d'entrée qu'on a soigneusement verrouillée. Le vieux père supplie son fils.
Allons, je t'en supplie, laisse-moi sortir, sinon je vais crever.
Non, Philocléon, non, jamais par Poséidon.
Eh bien, je vais ronger ce filet avec mes dents.
Mais tu n'as plus de dents.
Misère, pauvre de moi. Comment faire pour te tuer ? Comment ? Donnez-moi un glaive sur le champ ou une tablette pour les condamnations.
Puis, Philocléon dit qu'il doit impérativement sortir pour aller vendre un âne au marché. Son fils lui réplique qu'il le fera lui-même. Le fils va chercher l'âne à l'intérieur, mais celui-ci refuse d'avancer. Il est devenu lourd et pour cause. Un esclave apprend à d'où qui pue Cléon que son père s'est mis sous le ventre de l'âne en s'accrochant au poil de la bête, comme avait fait Ulysse en se glissant sous le ventre d'un bélier pour sortir de la grotte du Cyclope dans l'Odyssée.
Hé, hey Bourricot, pourquoi pleures-tu ? Parce que tu vas être vendu aujourd'hui ? Avance et plus vite que ça. Pourquoi renacler si tu ne portes point Calculus ?
Eh bien si, justement, par Zeus. Il porte quelqu'un qui s'est fourré là-dessous, tiens, là.
Qui ça ? Laisse-moi voir.
Le voici.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui peux-tu bien être, l'homme, franchement ?
Personne. Parole.
Le vieux père est découvert, arraché par son fils au ventre de l'âne, puis enfermé de nouveau dans la maison. N'est pas Ulysse qui veut. La scène est alors envahie par une bande de vieux, munis de leurs petits stylets. cette arme pointue qui leur servira quand ils seront au tribunal à inscrire les condamnations qu'ils s'apprêtent à voter. Ce sont les guêpes, les admirateurs de Cléon, avec leur dard empoisonné, le stylet des condamnations, et prêts à persécuter tous les adversaires politiques de leur idole. Ces vieux forment le cœur de la pièce. Ils avancent précautionneusement dans le petit matin, avec une lanterne, pour se rendre au tribunal. Ils ont peur de se casser la figure à cause de la boue qui emplit les rues. Ils viennent chercher leur ami Philocléon chez lui pour aller siéger au tribunal. Ils ne le trouvent pas. Son fils l'a enfermé chez lui. Ils protestent, ils hurlent, ils crient au complot, à la tyrannie. Ils essayent de faire sortir Philocléon avec des cordes. Mais ils n'y arrivent pas. Faut dire qu'ils sont vieux. D'abord, il leur faut du temps pour se mettre en colère, pour que la bile fasse son travail.
Dites-moi, pourquoi tardons-nous à faire monter cette fameuse bile qui nous vient quand quelqu'un met en colère notre guêpier ?
Vieillies, les guêpes ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais finalement, elles arrivent à se mettre en ordre de bataille. Le fils de Philocléon n'a qu'à bien se tenir.
Oui, nous allons te trucider. Allons, convergez tous par ici. Sortez votre dard et puis chargez-le. En rang serré, bien aligné, le cœur gorgé de colère et d'ardeur, pour qu'il sache désormais quel genre d'essaim il a mis en colère.
Ces vieux ont par le passé appris à combattre en hoplite, bien disciplinés. C'est comme ça qu'ils ont sauvé Athènes à plusieurs reprises. Le père soutient les assaillants qui viennent le délivrer.
Eh bien, allez-y, mes conjurés, guêpes irascibles. Vous, volez-leur furieusement dans leurs fesses. Et vous autres, piquez-les autour des yeux et sur les doigts.
Les serviteurs musclés du fils ont vite fait d'écarter les vieillards en colère. Le fils, qui pour la communication raisonnable, équilibrée et non pas pour la violence, propose l'arrêt du combat et l'instauration d'un débat contradictoire. Le fils d'Oukipucléon veut montrer à son père qu'il a fait un mauvais choix de vie. S'il arrête de se gaver de procédures, il aura une vie heureuse, peinarde, riche, exquise. Le père va au contraire tâcher de lui montrer qu'il n'y a pas de vie plus heureuse que celle qu'il mène à courir de procès en procès. Le père parle en premier, ce qui signifie d'habitude qu'il va perdre dans la joute verbale. Il raconte tout le plaisir qu'il a à arriver au tribunal, à se faire saluer avec respect par un colosse aux mains toutes lisses, usé par tout l'argent qu'il a volé, qui le remercie de l'avoir un jour acquitté.
L'un d'eux met dans ma dextre sa main lissée par le vol des fonds publics. Il m'implore avec des courbettes, d'une voix pitoyable. Aie pitié de moi, ô père, je t'en prie, si jamais tu as toi aussi commis des détournements en exerçant une magistrature ou à l'armée en faisant le marché pour votre popote. Un homme qui n'aurait même pas su que j'existe sans son précédent acquittement.
Philocléon raconte comment lui, le vieux, il lui promet de renouveler cette gentillesse et comment il oublie sa promesse dès qu'il siège, et se laisse prendre par le plaisir d'écouter les virtuosités des accusateurs ou les accusés. Le plaisir devient encore plus intense quand les accusés font monter leurs enfants en pleurs sur la tribune. Même le chef le plus puissant, le plus redoutable, grand Cléon, est tout gentil avec eux et se met à leur service, puisque son pouvoir dépend de leur vote.
Jusqu'à Cléon, lui, le maître a braillé. Nous sommes les seuls qu'il n'ose pas ronger. Non, il nous protège, nous tient entre ses bras et chasse les mouches loin de nous. Alors que toi, tu n'as jamais rien fait de tel, même pour ton propre père.
Bref, il ne s'agit pas de rendre la justice, mais de prendre du plaisir. Et le plus grand plaisir est de rentrer chez soi avec tout l'argent qu'on a gagné à faire le juge. 3 oboles par jour. On est fêté par tout le monde. Le fils balaye tout cela en lui montrant qu'il se fait rouler. 3 oboles, ce n'est rien par rapport à l'argent qui a été détourné par les coupables ou récupéré par l'État. Or, l'État, qui accumule tant d'argent, ne fait rien pour aider les pauvres. Cléon, qui se goberge à leurs dépens, est en fait un tyran. Il les tient en esclavage. Assommé par ses arguments, Philocléon sent comme une faiblesse.
Misère! Qu'est-ce donc que cette espèce d'engourdissement qui se répand le long de mon bras? Je ne puis même plus tenir mon glaive. Voilà que je tombe en langueur.
D'Oukipucléon propose à son père un arrangement. Puisqu'il s'agit dans la vie d'abord de se faire plaisir, son père, pourra continuer à juger, mais en vrai souverain, dans les conditions les plus confortables. Il jugera chez lui, à sa convenance. On lui organisera des procès à son seul usage pour qu'il se fasse du bien.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Jean-Noël Allard, historien.
Le théâtre antique est une institution civique, c'est-à-dire que c'est la cité qui organise, et le spectacle théâtral, même s'il peut accueillir une diversité de populations, est un spectacle qui s'adresse en premier lieu aux citoyens. Et en ce sens, c'est un élément qui n'est pas seulement un élément de divertissement, parce qu'il y a évidemment cette vocation à divertir par le théâtre, mais il y a également un élément qui pousse à la réflexion philosophique, à la réflexion politique et à la remise en question aussi de certains éléments de la vie politique, on va dire quotidienne. Donc il y a une sorte de réflexivité à laquelle les citoyens sont invités en pensant leur tare à travers la représentation théâtrale.
Pierre Judet de Lacombe raconte le procès d'un chien chapardeur imaginé par Aristophane.
Il suffit d'aménager en tribunal l'espace qui est devant la maison. Philocléon sera donc sorti pour juger, comme il le voulait, mais tout près de chez lui. Après tout, une justice privée, c'est plus confortable. Philocléon accepte, il est tout heureux.
Voyez-moi ça, comme les prédictions se réalisent. C'est vrai que j'avais entendu dire qu'un jour les Athéniens finiraient par juger leur procès à domicile et que chaque citoyen ferait construire sur le pas de sa porte, pour son propre usage, un mini-tribunal vraiment minuscule, comme ces niches d'écate que l'on trouve partout devant les portes.
D'abord, pour les commodités, il faut un pot de chambre. D'où qu'Hippucléon en sort un, qui pourrait, dit-il, s'attacher directement aux membres de Philocléon. Mais peut-être qu'il voulait en fait simplement dire un clou. En grec, c'est le même mot.
Voilà. Que peux-tu demander de plus? Je t'apporte absolument tout ce que je t'avais promis, et même bien davantage. D'abord, un pot de chambre, au cas où tu aurais envie de faire pipi. Tiens, on va le suspendre à portée de ta main, à cette protubérance.
Voilà qui est astucieux, oui, et pratique pour un vieillard. Tu as trouvé la solution idéale pour les mixtions difficiles.
Oui, et voilà du feu, et posé dessus de la purée de lentilles pour te remplir la panse si besoin est.
Ça aussi, c'est ingénieux. Ainsi, même si j'ai de la fièvre, je toucherai mon salaire. Je resterai ici et je me remplirai la panse de purée de lentilles. Mais dis donc, pourquoi m'avez-vous apporté cet oiseau ?
Ce coq ? C'est au cas où tu t'endormirais pendant une plaidoirie. Il se mettrait à chanter de là-haut pour te réveiller. Plus vite tu te décideras à siéger, plus vite je pourrai appeler une affaire.
Reste donc à trouver une affaire à juger. Elle se présente. Un esclave sort de la maison en colère. Il crie contre un chien qui vient de commettre un larcin à l'intérieur. Une belle affaire de vol.
Va donc te faire pendre. Quelle idée de garder chez soi un chien pareil.
De quoi s'agit-il au juste ?
Eh bien, c'est à cause de Glaptou, le chien. Il vient juste de bondir dans la cuisine, de happer un fromage frais de Sicile et de l'avaler.
Il y a bien un délit. Il faut trouver un accusateur. À Athènes, ce sont des personnes privées qui portaient plainte.
Tiens, voilà justement ce qu'il me faut comme premier délit à soumettre à mon père. C'est toi, esclave, qui sera l'accusateur.
Moi ? Grand Dieu, non. L'autre chien déclare qu'il sera l'accusateur s'il y a un procès.
Allons, amène-les donc ici tous les deux.
C'est entendu.
Philocléon est impatient. Il sait déjà quelle condamnation il va prononcer. Mais le procès ne peut pas encore commencer. Le fils, tout à coup, se rend compte qu'il manque des accessoires indispensables. D'abord les urnes, une pour la condamnation, l'autre pour l'acquittement.
Alors dépêche-toi d'introduire une affaire. J'ai déjà idée de la condamnation.
Voyons donc. Je dois apporter les registres et les actes d'accusation.
Misère, tu fais traîner en longueur. Tu vas me tuer à force de temporiser. Je meurs d'envie de tracer mon sillon sur mon petit lopin.
Voilà.
Vas-y, appelle une affaire.
Entendu.
Qu'est-ce qui est le premier ?
La peste m'étouffe. Au désespoir, j'ai oublié d'apporter les urnes.
Dis donc, toi, où cours-tu ?
Chercher les urnes.
Pas la peine. J'avais pris ces gobelets.
Manque aussi la clepsydre pour mesurer les temps de parole de l'accusation et de la défense. Ce n'est pas un problème pour le père. Le pot de chambre fera l'affaire.
Alors c'est parfait. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut. Sauf... Mais oui, sauf la clepsydre.
Philocléon montrant le pot de chambre. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une clepsydre ?
Bravo, tu as fait preuve là d'une débrouillardise bien de chez nous. Allons, que l'on m'apporte sur le champ du feu, des rameaux de myrte et tout l'encens de la maison, afin que nous commencions en adressant des prières aux dieux.
Le fils s'adresse à Apollon, dont la statue était fichée dans la rue à la porte de la maison, et il lui demande de libérer son père de son penchant.
Ô maître souverain, Apollon des rues, mon voisin gardien de mon seuil, agrée, ô maître, le rite nouveau que nous inaugurons pour mon père. Mets un terme à cette excessive âpreté de son caractère dur comme du chêne, en mélangeant un peu de miel à son petit cœur, comme si c'était du vin cuit. Qu'il soit désormais bienveillant envers autrui, qu'il prenne en pitié les accusés plutôt que les accusateurs, qu'il fonde en larmes quand on le supplie, qu'il mette un terme à sa malignité et qu'à sa colère, il enlève son ortie.
Le serviteur va faire entrer l'accusateur. C'est un chien qui s'appelle seulement Chien. Il reproche au premier chien, Glaptou, l'accusé, non seulement d'avoir volé un fromage, mais surtout de ne pas avoir partagé son butin. Ce chien accusateur fait beaucoup penser à Cléon, qui se définissait lui-même comme le chien de garde qui protège Athènes. Qui va gagner le procès ? Le procès sera-t-il équitable ? Philocléon sera-t-il guéri de sa passion pour les condamnations ? Aristophane, dans cette première partie de sa pièce « Les guêpes », se livre à une critique mordante du populisme, du pouvoir prétendument laissé au peuple par des chefs politiques avides. Contre le populisme, il y a le fils, bon chic, bon genre, d'Occipucléon. Mais cette critique est-elle si pure, si juste que ça ? Aristophane n'est pas naïf. Si vous le voulez, on le verra. Ce fils si raisonnable, apparemment si modéré, si propre sur lui, aura droit lui aussi à être caricaturé et à devenir enfin comique comme son père. En attendant, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que les dieux aient enfin un peu d'humour. Cette émission a été réalisée par Maria Pasquet. La prise de son a été réalisée par Mathias Aléon et Vincent Désir. Des archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. Bonne journée sur France Inter.